Jungle, avant que les personnes qui étaient le jungle passaient pour Angleterre ou arrivaient pour l'Afghanistan ici.
Arrivé à Calais, jeudi 11 juillet, Philippe Wenson de la Marmite aux idées fait visiter les lieux qui ont marqué l'histoire migratoire récente, hein, c'est-à-dire grosso modo depuis 2002, après l'évacuation du camp de Sangatte. Donc il nous fait visiter les lieux qui ont marqué l'histoire migratoire et l'histoire de la répression de l'immigration à Calais. Des jungles et des squats évacués sont rasés, y compris des arbres coupés pour la jungle pachtoune, le tout aplani, des fois qu'on pourrait s'y cacher. Dans chacun de ces lieux, une stèle en palette a été érigée en hommage aux personnes qui y ont habité et en retrace brièvement l'histoire. On retrouvera tout ça, la plupart des textes, qu'on retrouve sur les palettes, mais aussi des photos qui sont édifiantes sur le blog Vibration Migratoire, c'est http://vibration-o-migratoire.wordpress.com.
C'est l'endroit qui est passé sur toutes les télés du monde entier le 22 septembre 2009. Donc le jour où ça a été détruit de manière très, très médiatisée. En fait, c'est deux bois qui se font face de part et d'autre d'une petite rue. Et c'est une histoire qui ne remonte pas à 2009, mais depuis la fermeture de Sangatte, en tout cas pas un an, deux ans après, quoi. Des gens qui sont installés donc, dans cet endroit où ils étaient un peu à l'abri du couvert boisé, qui ont installé quelques cabanes. Les cabanes ont été détruites, ils ont été plus loin. Il y a eu un peu un ping-pong. La jungle d'abord était de ce côté-ci de la rue, donc à l'ouest. Ensuite, elle est passée à l'est parce qu'elle a été détruite. Puis les gens sont revenus à l'ouest quand ça a été détruit à l'est. Enfin bref. Et puis à partir de l'automne 2008, en fait, la jungle va commencer à grandir. Il y a de plus en plus d'Afghans, c'est une grande majorité d'Afghans et une majorité d'Afghans pachtounes, donc l'ethnie la plus nombreuse de l'Afghanistan, qui s'installe là. D'abord, c'est des cabanes en bâche, en bois, voilà, un peu informe. Et puis, peu à peu, à partir du printemps 2009, les cabanes se construisent autrement. Avec des murs parallèles, un toit légèrement incliné, enfin quelque chose qui ressemble à des petites maisons. Les cabanes ont aussi eu tendance à se regrouper autour de quelque chose qui faisait office de cour, où il y avait souvent une cuisine d'été qui s'aménageait. Et à partir du moment où il y a eu un point d'eau à l'entrée du coin, il y avait souvent un coin fermé par des couvertures pour se laver aussi sur une palette. Parfois avec des branchages pour fermer la courette. Donc c'est un lieu qui a vraiment été avec le temps approprié par les gens, d'autant plus les contrôles étant plus sévères, les gens restaient plus souvent. Il y a des gens qui allaient notamment au supermarché faire des achats et qui ramenaient pour l'ensemble de la collectivité et qui revendaient. Donc on a eu deux épiceries qui se sont ouvertes aussi. Dans ce bidonville qui prenait des allures de village, il y a un moment, la blague qu'on se faisait, c'est qu'il ne manque plus que les noms de rue. Il y a une première cabane qui a servi de mosquée, et puis comme elle était trop petite et pas assez belle, ils ont reconstruit une belle grande cabane qui servait de mosquée avec des tapis à l'intérieur. Et ils ont chipé des fleurs sur les parterres municipaux pour entourer la mosquée de fleurs. Voilà, donc c'est cette vie de village en fait qui existait, alors avec la violence qu'il pouvait y avoir liée aux questions de passage, de passeurs, etc. La violence liée à la police, c'est tellement commode quand on a un point d'eau au bord de la route d'arrêter les gens autour du point d'eau, de passer un coup de lacrymogène à l'intérieur de la pompe à eau, comme ça les gens qui se lavent après, ça leur brûle bien le visage. On avait toute cette violence là autour, mais en même temps, quelque chose qui était un village et que les gens s'appropriaient assez fortement. Et puis, un beau matin, alors c'était annoncé à l'avance, hein, le ministre ne cherchait pas à arrêter les passeurs, c'était dit à la télé une semaine avant que ça allait être détruit. Donc un matin, quelques centaines de policiers ont bouclé la zone et ont arrêté les personnes une par une, les ont mis dans des bus et les gens se sont retrouvés aux quatre coins de la France. Les mineurs dans des centres plus ou moins improvisés pour les accueillir et les majeurs dans des centres de rétention pour être expulsés en Afghanistan. Leur procédure en série, sans respecter la loi, etc., les adultes ont été relâchés assez rapidement et les mineurs étaient dans des centres qui étaient ouverts. Donc certains sont restés et ont saisi l'opportunité de rester en France, mais beaucoup, on les a revus dans les jours et les semaines suivantes qui revenaient à Calais. Voilà peut-être en quelques mots un peu l'histoire de cet endroit. Il y a encore des gens à Calais qui ont vécu, des demandeurs d'asile qui ont obtenu le statut de réfugié, des demandeurs d'asile qui du coup ont demandé l'asile à Nîmes, Montpellier ou ailleurs après la rafle du 22 septembre, qui ont été déboutés et qui reviennent, ou des gens qui sont restés ici et qui ont été déboutés. Donc voilà, il y a à la fois les gens qu'on voit revenir maintenant, après 2 ans, 3 ans de procédure qui a mené à rien et qui reprennent leur projet initial de retourner en Angleterre, ou des gens qui ont fait leur place ici, qui maintenant ont des papiers, qui vivent plus ou moins bien, parce que c'est vrai que Calais, c'est évident pour personne en tant que chômage, avec le chômage, et moins évident quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas et qu'on doit y trouver sa place. Ça reste quelque chose de fort pour les gens qui y ont vécu, pas forcément de fort en termes seulement de bons souvenirs, mais en tout cas c'est un lieu qui était vraiment un repère pour les gens qui ont habité, mais y compris ils en racontaient aussi les difficultés, les coups de désespoir, les coups de blues, la violence, je disais, la gale. Il y a quand même une énorme épidémie de gale en 2009. Donc la gale, c'est un petit parasite qui s'installe. Donc ça gratte surtout la nuit. Donc on dort très mal. On se gratte. À l'époque, il y avait une douche à la passe accessible à tout le monde. Donc des conditions d'hygiène qui n'étaient vraiment pas bonnes. Donc surinfection, surgrattage. Enfin, c'était vraiment une vie difficile aussi. Bon, les rats un peu partout. Comme d'habitude, l'intérieur des cabanes rangées et propres. Et l'extérieur avec plein de trucs qui traînent. Voilà, un peu en vrac. Il y a plein de vidéos qui traînent sur Internet, effectivement. Il y avait une centaine de journalistes au moment de la destruction. Il y avait des télés... Oui, Jungle de Calais 2009. Ton moteur de recherche, il te donnera plein de vidéos.
Et il y avait une douche pour combien de personnes ?
En juillet, on avait Salam en fait a arrêté de préparer les repas, mais par contre faisait le tour des squats pour distribuer la nourriture qui était collectée, parce que les gens avaient des lieux permanents où ils pouvaient cuisiner eux-mêmes. Et du coup, il y avait eu un recensement pour pouvoir faire une distribution. C'est assez marrant d'ailleurs la manière dont on met en place ces opérations administratives. Donc on avait recensé, on avait compté 1200 personnes sur Calais, dont 900 à la jungle des Pachtounes, en juillet. En septembre, par contre, on estime qu'il y avait peut-être dans les 600 personnes sur Calais. Et le jour de la rafle, il y avait 270 personnes à la jungle. Donc, en fait, ils ont fait cette opération-là quand le nombre de personnes avait baissé largement. Ça a bien passé cet été-là. Et ce que nous disent les associations parisiennes, le collectif des exilés du 10e, c'est que fin 2008, dès le début de 2009, en fait, les Afghans ont commencé à se réorienter vers la Scandinavie, et moins s'orienter vers la Grande-Bretagne. Donc il y a eu un effet d'inertie, et puis ensuite il y a eu le reflux, moins de personnes arrivant, et une baisse naturelle entre guillemets. Et pour d'autres groupes aussi, c'est l'époque où où le passage entre la Libye et l'Italie était devenu très difficile. Donc on l'a vu aussi en termes d'Africains de l'Est, notamment Érythréens et Éthiopiens qui venaient à Calais. Donc beaucoup moins de gens qui arrivent.
Et est-ce que ça n'aurait pas été un peu plus facile de passer juste avant la destruction de la jungle ?
Alors a priori, l'été là, c'était facile de passer. Après, c'est souvent plus facile de passer l'été, en fait. D'une part parce qu'il y a des remplacements, en fait. Dans les compagnies de gardiennage, etc., il y a des gens qui font des CDD juste pour l'été, des étudiants, et qui... Bon, pas toujours, voilà quoi. Donc ça passe un peu mieux en ce moment, ça passe pas mal par exemple. Mais effectivement, ça passait bien. Alors effectivement, la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas eu une volonté de désengorger Calais, de faire baisser le nombre de personnes, et ensuite de détruire de manière plus facile puisqu'il y avait moins de monde. 900 personnes, c'est quand même une grosse opération, 270, c'est nettement moins quoi, c'est trois fois moins.
Il faut s'imaginer que les policiers, ils étaient comme ça, quoi. Ici, tout le tour, c'était comme ça. Toi, t'avais un policier tous les 1m50, quoi. Donc t'imagines, et t'avais des gars qui arrivaient en face, alors on disait, dégagez, parce que les gars, ils arrivaient dans le bois en face, et puis les policiers, ils étaient ici, donc on leur disait, non, faut partir, quoi. C'était aberrant, quand même, comme truc, parce que vu le nombre, enfin, ils étaient quoi, 700 ou 800 policiers pour arrêter 250 gars, quoi. Quand même, c'était une épreuve, hein, vraiment pour nous. Moi, j'ai gardé un souvenir vraiment difficile.
Donc en fait, là, il y avait l'usine Panier, qui était une usine de bois, menuiserie, contreplaqué. Et là, il y avait l'usine Noyon. En fait, l'usine Noyon, elle continuait jusqu'à l'entrée de la résidence là-bas au départ. C'était une grosse usine de dentelle avec plusieurs milliers de salariés. Maintenant, il reste juste ce qui est de l'autre côté là du mur. Donc, ça a été détruit. Ils ont construit les immeubles là. Ils ont continué à détruire ici, où est le parking. Et il restait là l'ancienne usine de menuiserie contreplaquée et puis une partie de l'ancienne usine de dentelle qui n'avait pas encore été détruite. Ça a été squatté a priori de 2003 à 2006, notamment par des Africains de l'Est qui ont été expulsés. Ça a été un squat qui est assez connu, qui reste connu dans l'histoire calaisienne. Ça a été muré en 2006 quand ça a été expulsé. Les gens ont été mis dans des bus, envoyés aux quatre coins de France. Enfin, un peu le scénario classique. Sporadiquement, apparemment, entre 2006 et 2009, il y a quand même des gens qui sont rentrés en faisant le mur par-dessus. Voilà. Et en 2009, en fait, Érythréens et Éthiopiens étaient de l'autre côté du centre-ville, dans trois petites maisons mitoyennes. Et ils se sont retrouvés à être 150. Donc ça commençait vraiment à être petit. Et ça commençait à être vraiment tendu entre eux. Donc un groupe majoritairement d'Éthiopiens, en fait, est revenu après avoir essayé une paire d'autres lieux, est revenu ici dans l'ancienne usine Panier. Donc d'abord, ils ont cassé les agglos de l'une des portes qui était murée. Ça a été remuré, réouvert, remuré. Et finalement, la solution qu'ils ont trouvée et qui était avantageuse par rapport à la police, c'est qu'ils n'ont pas rouvert. Ils mettaient une poutre en travers d'un mur qui faisait un peu plus de 2 mètres de haut. Et ils montaient en équilibre sur la poutre. Ou alors, ils ont mis à d'autres époques des palettes ou des choses qui pouvaient faire échelle pour passer par-dessus le mur. Et ils retiraient, évidemment, ces trucs-là quand ils étaient à l'intérieur, quoi. Donc, ça fait que les flics, quand ils devaient arriver, ils devaient escalader et ça laissait un peu de temps pour essayer de se cacher à l'intérieur. Voilà. Ils ont été expulsés en 2010, en juin, si je me souviens bien. Ça a été rasé, du coup, dans la foulée. Donc, l'ancienne usine Panier. Les gens sont allés là où on va aller tout à l'heure, ce qui était l'ancienne usine Tellu, dont ils ont été délogés. Et ils sont revenus ici, dans l'ancienne usine Noyon, donc les bâtiments qui n'avaient pas encore été détruits à l'époque. Et en plus, il y avait le long de la rue toute une série de petites maisons. Donc ils sont d'abord installés dans l'usine et après il y a certaines des maisons qui ont été occupées, pas forcément par des Africains, du coup il y a eu des Afghans à une époque qui ont été là jusqu'au moment où ils ont été délogés. Et là la destruction a commencé. Avant la destruction d'ailleurs, ils ont mis des clôtures, ils ont mis un Adjeco, et dans l'Adjeco il y avait un vigile avec son chien. Ça ils l'avaient fait aussi pour Panier et ils l'ont fait aussi pour Tellu. Et du coup, ils ont détruit progressivement l'ensemble des bâtiments. Donc du coup, quand les gens ont été expulsés de là, ils sont retournés derrière Tellu où ils squattaient avant. Jusqu'à ce qu'ils soient délogés de là-bas et que ce soit détruit. Enfin ça montre un peu les parties de ping-pong qu'il peut y avoir entre des sites. En fait, on expulse les gens au mur, donc ils vont à un autre endroit, ils en sont expulsés, ils reviennent à l'endroit qui a été muré, ou alors au bâtiment d'à côté si ça a été détruit. Et c'est un peu, il y a une série de lieux comme ça où les gens tourne pendant un certain temps, c'est détruit progressivement, et puis ça laisse un terrain vague, et ça fait partie des nombreux endroits de Calais où on est censé reconstruire quelque chose. Ici, de mémoire, il n'y a pas encore de projet défini. Par contre, ce qu'on constate, c'est que des chantiers plus anciens sont toujours à l'état de terrain vague, donc il n'y avait pas forcément urgence à détruire.
Et quand on voit quand même autour, il y aurait de quoi reloger un certain nombre de personnes de la ville de Calais et probablement du Calaisis, voire au-delà.
Oui, il y a une ancienne usine en face, donc les fenêtres sont bouchées par des plaques de métal. Voilà, l'autre bâtiment qui est juste à côté est abandonné aussi. Donc oui, du bâti vide, il y en a plein à Calais. Et la mairie, notamment, est propriétaire d'un certain nombre de maisons vides en bon état, dont un ancien centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui était squatté épisodiquement au début de cette année. Les gens se sont fait assez rapidement virer, mais du coup on en a profité pour soutenir que voilà, c'était un endroit qui avait une vocation d'hébergement social. Le lieu a déménagé, le bâtiment reste vide, il y a l'eau, il y a l'électricité, c'était occupé quelques mois auparavant, c'est en bon état, voilà, et ça appartient à la collectivité publique.
Donc en fait, il n'y a pas d'autre solution que de jouer au ping-pong, et c'est un ping-pong complètement crétin.
Ah ben c'est pas une solution. C'est un ping-pong crétin, mais c'est pas une solution. Et pour l'instant, il n'y a pas de solution proposée, effectivement. Dans les bâtiments laissés, l'hôpital de Calais a déménagé. Donc maintenant, il est en périphérie, il faut marcher une heure pour y aller. Ce qui est agréable quand on est malade et qu'on n'a pas de voiture. Donc il y a deux sites qui sont déserts, qui sont en train de détruire progressivement. Donc on avait proposé que ça pourrait être un lieu d'hébergement ou un provisoire, parce que concentrer tout le monde dans le même endroit, c'est pas forcément, ça crée un ghetto d'une part, et d'autre part ça peut créer des tensions. Non, la destruction se fait progressivement, et puis voilà. Et puis par contre, il n'y a pas de projet pour ces sites là encore, clair, donc c'est un peu du gaspillage quelque part. Et c'est des bâtiments qui viennent d'être laissés. Enfin, c'était un hôpital il y a un an, quoi. Donc, c'est en bon état. C'est salubre, par définition. Voilà. Il faut imaginer que ici derrière, il y avait des préfabriqués qui ont servi au tout début de l'université de Calais.
Le lieu s'appelle comment ?
Alors, il y avait l'ancienne usine Télu, mais qui donne sur l'autre rue perpendiculaire, la rue Descartes. Et ici, c'est ce qu'on appelait l'université, puisque c'était les anciens locaux de l'université, qui ont servi ensuite à des activités d'éducation populaire sous le nom d'université du temps libre. Et puis à un moment donné, ça a été laissé abandonner. Alors en fait, chronologiquement, c'est d'abord l'usine, donc qu'on ne voit plus, puisqu'elle était derrière l'université du temps libre, qui s'appelait l'usine Télu, qui était abandonnée et qui a été squattée quand le squat panier où on était tout à l'heure a été évacué en 2010. Donc les gens sont venus ici, donc principalement des Africains de l'Est. Et c'est donc dans cet endroit-là qu'on a vu arriver en 2011, à partir du mois d'avril-mai, des gens qui venaient de Libye, en fait. Des Érythréens, beaucoup, des Éthiopiens, des Soudanais, qui, au moment où Kadhafi, en fait, a arrêté d'intercepter les bateaux qui quittaient les côtes libyennes pour aller en Italie, du coup, c'est devenu beaucoup plus facile de passer. C'est là qu'on se rend compte que c'est les pays, en fait, que les gens quittent qui interceptent le mieux. On a eu la même chose avec la Tunisie, en fait. C'est pas les pays européens qui bloquent, c'est les pays de départ. Donc, quand Kadhafi a arrêté d'intercepter les bateaux d'exilés, et qu'au contraire, il est allé chercher les exilés chez eux pour les mettre sur des bateaux, les envoyer en Italie, et montrer à l'Europe qu'il se vengeait en envoyant des hordes de migrants. Donc, avec un décalage de quelques semaines, on a commencé à voir des gens qui avaient débarqué en Italie et puis qui remontaient vers l'Angleterre, qui se sont retrouvés là bloqués par la mer. Souvent, c'est là qu'ils ont pour la première fois eu une information sur l'asile. Donc du coup, un certain nombre ont décidé de demander l'asile en France. En plus, ça a été beaucoup des voyages, en tout cas une partie des voyages ont été improvisés. Donc les gens n'avaient pas forcément non plus l'argent pour continuer leur passage, payer pour aller en Angleterre, etc. Donc voilà. Et puis, ben, beau jour, ça s'est passé comme ailleurs, c'est-à-dire des centres de police, on embarque tout le monde, on évacue tout le monde, pardon. C'était le 27 juin, je m'en souviens, parce que c'était le jour où on avait rendez-vous avec le défenseur des droits pour lui donner le rapport sur les violences policières à Calais. Je suis passé à 8h parce qu'on m'a téléphoné, le squat est en cours d'évacuation, et j'ai filé prendre mon train dans la foulée. Donc ils ont clôturé, ils ont mis vigile les chiens comme d'habitude, et ils ont rasé les bâtiments de l'usine, qui au départ ne devait pas être rasé parce que c'était vraiment du beau bâti et qui souhaitaient l'intégrer à leur projet dit d'éco-quartier. Donc les gens sont retournés à l'usine Noyon où on était tout à l'heure, qui n'avait pas été détruite encore, et quand ils en ont été expulsés, ils sont revenus ici, sachant que les bâtiments de l'université, les anciens bâtiments de l'université, à l'époque du squat Télu, avaient été squattés notamment par des Afghans. Enfin, progressivement, c'était vraiment devenu un lieu intercommunautaire, pas seulement africain de l'Est, du coup. Des Arabes d'un certain nombre de pays étaient venus là aussi, etc. C'était vraiment un squat multiculturel, même si chacun avait un peu ses lieux à soi. Ça regroupait un peu toutes les communautés. Donc voilà, les gens sont revenus, donc du coup, de l'ancienne université d'où ils avaient été expulsés. Et ils ont fini par en être expulsés de cet endroit-là aussi. Donc les bâtiments ont été détruits et il restait encore, de l'autre côté de la rue Descartes, entre la rue Descartes et le canal, des maisons individuelles qui avaient été épisodiquement été squattées à certains moments, parfois déjà détruites, et la dernière a été détruite il y a à peu près un mois et demi. Elle était squattée par un groupe de 15-20 Égyptiens qui ont été expulsés, et la maison a été détruite dans la foulée. Donc on a encore une fois un magnifique terrain vague dans certaines parties depuis quelque chose comme 2 ans, avec un projet d'éco-quartier, donc c'est chouette, c'est beau, ça va être écologique.
Et ça avait été aussi une période très particulière. À quel âge justement cette période qui commence fin juin 2011 et qui s'est un petit peu poursuivie
Oui, ça a été en plus une période vraiment... Enfin, dans la foulée, il y a vraiment eu un harcèlement très, 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 très dur. Donc, déloger les gens au fur et à mesure qu'ils seraient installés dans un nouvel endroit. Du coup, on a eu des gens qui ont campé au bord du canal, juste en face de la mairie. On a eu... Des gens qui allaient dans les fourrés, qui se dispersaient d'un jour à l'autre, qui étaient chassés, qui allaient à un autre endroit. Donc des gens qui ne peuvent pas dormir non plus, parce qu'effectivement, ils doivent attendre que la nuit tombe. On est quand même avec les jours les plus longs de l'année, donc ils doivent attendre que la nuit tombe pour se poser quelque part. Et la police, éventuellement, va venir soit pendant la nuit, soit au petit matin pour les déloger. Donc ça a vraiment été une période dure. Ou la police qui passe dans la nuit, qui klaxonne, qui braque ses phares sur les tentes et qui fait rien d'autre. Enfin, histoire d'empêcher les gens de se reposer. Ça, c'était le contexte, effectivement, dans lequel le Jungle Tour est arrivé en 2011.
Et c'était tellement chaud qu'à ce moment-là, on avait demandé aux cyclistes de mettre les brassards Amnesty pour montrer la présence d'une grosse association qui était là. Enfin, c'était un petit peu un vent de panique qui soufflait sur Calais.
De panique, pas forcément, mais c'était extrêmement tendu. C'est... Ouais. Ouais. Oui, parce qu'on sentait vraiment l'usure. D'autant plus que ce squat avait duré longtemps, que les gens y avaient trouvé leur marque. Quoi. C'est toujours cette histoire de lieux qui sont complètement insalubres, mais que les gens s'approprient progressivement. Donc ils viennent, ils se trouvent des endroits pour dormir, puis peu à peu ils installent des feux, ils se retrouvent autour du feu, et puis peu à peu quand on vient les voir, au début ils disent de s'asseoir, puis à un moment ils offrent le thé, donc là on est déjà dans un rapport d'hospitalité, donc ils commencent à être chez eux, ça se structure un peu par communauté, des espaces communs, des espaces pour dormir, des espaces toisettes, etc., etc. Une école, donc il y a eu 2 salles du préfabriqué administratif de l'usine Télu qui ont servi pour les cours de français, les cours d'anglais pendant toute une période, et ensuite dans les bâtiments de l'université, là c'était magnifique parce qu'il y avait les anciens tableaux qui faisaient 4 mètres de large, on pouvait se prendre pour un vrai prof à faire son cours. Mais il y a donc à chaque fois eu cette appropriation des lieux, et effectivement quand les gens se sont retrouvés expulsés et qu'en plus on les a chassés de lieu en lieu, de jour en jour, de nuit en nuit, ça a été quelque chose d'extrêmement dur à vivre physiquement. En plus il y a eu des périodes de pluie à cette période-là, enfin c'était dur.
C'est la privation de sommeil, c'est une torture.
Après la destruction de la jungle de Calais en 2009, la grande jungle où on était au début, une partie des gens se sont réfugiés tout autour du bassin, là, sous les ponts. Donc c'est à deux pas de l'hôtel de ville. Donc la maire de Calais était très contente. Sinon, en face, le petit gymnase, là, c'est le gymnase qui est ouvert dans le cadre du plan Grand Froid. Le terrain vague qui est en face, là où il y a le camion, et jusqu'à la voie ferrée. Il y avait un hangar qui a été squatté au début des années 2000. Et qui a été rasé, pareil. Et derrière le bosquet, là où il y a une surface goudronnée, il y avait trois maisons mitoyennes qui étaient le squat des Érythréens jusqu'en octobre 2009. Donc celui où je parlais, en fait, ils ont été jusqu'à 150, et puis une partie ont déménagé à l'usine Panier qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc ici, c'est aussi un panorama de différentes époques, en fait. Hein. Il y a différentes occupations par les migrants et de différents lieux qui ont été rasés et qui sont restés terrain vague ou surface vide.
Et c'était pas aussi un lieu de distribution de repas ?
Et ici, juste en face, exactement là où est le camion bleu, c'est là que l'association La Belle Étoile faisait la distribution des repas avant l'ouverture du lieu. On va là tout de suite. Donc c'était le midi. Voilà. C'est le lieu qu'on appelait la cabina, parce qu'en fait la mairie à une époque avait avait installé un préfabriqué qui a été surnommé la cabina. Et quand le préfabriqué qui était moitié en ruine a été enlevé, et ben on a continué à dire la cabina, et maintenant les anciens continuent à appeler le lieu la cabina.
Après cette visite, nous nous rendons à la distribution des repas assurée ce jour-là par l'association L'Auberge des Migrants. Au prétexte d'une bagarre qui a eu lieu quelques jours auparavant, une demi-douzaine de cars de police accueillent les migrants et accessoirement les cyclistes, et tout le monde doit se soumettre à une palpation et répondre à quelques questions, même si pas de contrôle d'identité.
Jungle, car les personnes qui étaient le jungle passaient pour Angleterre ou arrivaient pour Afghanistan ici. من دوغ کلو چنگا کی گی ما تا چل نرازی وی اللہ وی اللہ چک پچا چرنگ گرانی گی ما تا چل نرازی وی اللہ چک پچا چرنگ گرانی گی ما تا چل نرازی دغرا جلی ما دکلی بہر مرا پریک دی دغرا جلی ما دکلی بہر مرا پریک دی